This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$1,000.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec Pizemam de la rédaction cambodgienne. À propos de la décision de l'Union européenne de suspendre l'accord commercial qui la lie au Cambodge. Miguel Martins, de la rédaction en portugais.
Bonjour.
Pour analyser les élections de dimanche dernier à São Tomé et Principe. Et Rafael Moran, de la rédaction hispanophone.
Buenas tardes.
À propos de l'arrivée au premier tour de la présidentielle au Brésil de Jair Bolsonaro. Bonsoir à vous tous. Mais avant tout cela, intéressons-nous au sommet de la francophonie qui se tenait à Erevan en Arménie. À cette occasion, ce vendredi, le président français a accordé un entretien exclusif à Radio France Internationale. Il a redit ce qu'il pense et ce qu'il veut pour la francophonie.
L'épicentre actuel de la francophonie, c'est l'Afrique. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est beaucoup plus une francophonie de conquête qu'on a vue durant ce sommet et qu'on va continuer à voir. Quand on a un pays comme le Rwanda qui avait pu se détourner du français, revenir, prendre ses responsabilités avec une ministre évidemment francophone dans un pays dont je rappelle que plus de la moitié de la population parle français. C'est évidemment un projecteur sur notre langue, sur ses valeurs et ce que ça permettra de faire.
Voilà les propos du chef de l'État français tenu au sommet de la francophonie d'Erevan qui a vu être propulsé à la tête de l'organisation la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Emmanuel Macron y faisait allusion à l'instant. Louise Mashikiwambo qui prend donc la succession de Michael Jean. Miguel Martins, la gestion de l'ancien gouverneur général du Canada a été qualifiée de désastreuse par certains.
En effet, Philippe, c'est ce que nous rappelait déjà Raphaël Lucas. Il est politologue français, lui aussi d'origine haïtienne, comme Michael Jean. On l'écoute.
Michael Jean, du Québec, du Canada, a pesar de ter ocupado ese puesto con...
Quelle est son analyse?
Il nous disait que cette Québécoise, par le passé, avait eu le soutien de l'Afrique, de la France et bien évidemment de son pays, le Canada. Jusqu'à tous les perdre, ces soutiens en cause notamment une piètre gestion économique de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était donc exclu que le président français soutienne quelqu'un avec un bilan aussi controversé. L'autre raison de ce soutien d'Emmanuel Macron concerne la dette de Paris vis-à-vis de Kigali après le contentieux autour du génocide rwandais de 1994. Un différend qui est allé jusqu'à ce que Kigali fasse dans un premier temps un pari sur la langue anglaise au détriment du français, on s'en souvient.
Raphaël Moran, à la rédaction Amérique latine, vous vous êtes intéressé au fait que l'avenir de la langue française se trouve en Afrique, c'est ce que disait là encore Emmanuel Macron il y a de cela quelques instants sur notre antenne.
Oui, c'est ce que dit le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, l'Afrique représentera 85% des francophones en 2050. Le nombre de francophones augmente régulièrement, faisant même du français la cinquième langue la plus parlée au monde. Les francophones seraient autour de 700 millions en 2050 du fait de l'explosion démographique de plusieurs pays africains. Alors, d'ailleurs, 27 des 54 membres actuels de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie sont des pays africains. C'est ce qui fait dire au président français que l'épicentre de la langue française est sans doute dans le bassin du fleuve Congo.
Raphaël, le président français a clairement également mis l'accent sur le français comme outil de langue et de création littéraire. Une stratégie qui diffère de celle de la secrétaire générale sortante, donc la canadienne Michaëlle Jean, qui dans son discours de fin de mandat a insisté pour que la défense des droits de l'homme reste une priorité de l'OIF.
Oui, on a deux visions de la francophonie, là, de la fonction de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'affrontent. Hein. Ça a donné d'ailleurs lieu à un bras de fer pour la nomination de la nouvelle direction. La priorité du président Macron, c'est donc de promouvoir l'éducation en français, de populariser cette langue auprès des jeunes en Afrique. Il veut impulser aussi un congrès des écrivains francophones. C'est l'un des projets dont il a parlé. Et tout ça laisse un petit peu de côté la promotion de la démocratie, de la liberté, hein, la nouvelle secrétaire général n'en a pas vraiment parlé dans son discours aujourd'hui, après sa nomination.
Propose peut-être.
Bah oui, exactement. Ce n'est pas son objectif principal. D'ailleurs, le Rwanda, le choix d'une Rwandaise à la tête de l'organisation a été très critiqué par plusieurs ONG à cause du bilan du Rwanda en matière des droits de l'homme. Hein. Le président Kagame s'accroche au pouvoir, l'opposition est asphyxiée. Mais la France, vous l'avez dit, Miguel, a poussé la candidature rwandaise pour deux raisons. Eh bien, elle veut se réconcilier avec le Rwanda et surtout reprendre pied en Afrique, notamment dans les pays, ces pays qui se tournent petit à petit vers le monde anglophone comme le Rwanda.
Alors Miguel, justement, nombre de pays de langue portugaise en Afrique font aujourd'hui également partie de la francophonie. Et même la France vient d'adhérer à la CPLP qui est la communauté des pays de langue portugaise.
Tout à fait Philippe, aujourd'hui seul l'Angola parmi les pays africains de langue portugaise ne fait pas partie de l'OIF, mais l'Angola devrait, lors du sommet de Tunis de 2020, soumettre sa demande d'adhésion. Le Portugal devrait également demander un statut d'observateur, le même statut dont bénéficie déjà la France au sein de la CPLP depuis le sommet de l'île capverdienne de Sales, c'était en juillet dernier.
Alors comment expliquer cela ?
Voilà, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et São Tomé-et-Principe sont des pays de langue portugaise situés dans une région surtout francophone. Ils sont donc tous membres de la CPLP, une organisation qui est bien plus jeune que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à laquelle ils avaient donc adhéré en tant que membres de plein droit. Par ailleurs, le Mozambique a rejoint également plus récemment l'OIF, mais avec le statut d'observateur. Ces passerelles ne sont pas rares. La Guinée équatoriale, par exemple, le seul pays de langue officielle espagnole en Afrique, fait cependant également partie à la fois de l'OIF et de la CPLP. Oui. Et la Gambie et le Ghana, par exemple, bien qu'anglophones, ont également rejoint la francophonie.
Et seul l'Angola était resté en Afrique en retrait de cette dynamique donc francophone, si je puis dire.
Exact, Philippe. Le rapprochement récent avec Paris après des années de brouille à cause de l'affaire de vente d'armes connue comme étant l'Angola Gate a permis à Luanda de sauter le pas et d'annoncer prochainement son adhésion à l'OIF. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, c'était en début d'année en déplacement à Lisbonne, avait pris de court son homologue portugais en début d'année, je disais, en faisant part du souhait que la France rejoigne la CPLP et en demandant un rapprochement des deux blocs. Le Portugal pourrait du coup à terme devenir membre observateur de la francophonie.
Alors quel intérêt peuvent avoir les pays lusophones à rejoindre la francophonie ou des pays francophones ou hispanophones à devenir membre de la CPLP ?
Voilà qui paraît bien compliqué, voilà la question à laquelle répond justement Raphaël Lucas.
Abrir un espace de contact international, enrichir de base.
Que dit-il ?
Il dit que ça permet des forums d'échange autour des questions internationales, notamment communes aux francophones et lusophones. En Afrique, la grande puissance économique lusophone est indéniablement l'Angola. Cette adhésion angolaise à la francophonie est donc très bien perçue par la France. Les liens sont également très forts entre la France et le Portugal. Il ne faut pas oublier non plus que la France possède sa plus longue frontière terrestre avec un pays lusophone. Le Brésil, on parle là évidemment de la Guyane française.
Bizemam, le Cambodge est également un pays membre de la francophonie. Il s'agit d'un héritage de la période coloniale près de 100 ans.
Oui Philippe, la France avait installé officiellement l'administration coloniale au Cambodge en 1863. Si cette administration n'avait pas réussi à changer l'écriture de notre langue en alphabet latin, comme c'était le cas au Vietnam, ce n'est pas pour autant que les Cambodgiens ignoraient la langue française. Certes, la langue khmer est une langue très riche, mais à travers la langue française, le Cambodgien voyait s'ouvrir un accès immédiat au vaste fonds littéraire, scientifique et technique des ouvrages français. Le français était devenu la langue des élites, synonyme de culture et de savoir. Jusqu'en 1975, le français était la deuxième langue du pays et il est enseigné dans les écoles publiques à raison de 8 heures de cours par semaine.
Alors qu'en est-il depuis 1993, depuis que le pays s'est à nouveau rouvert sur le monde ?
Oui, après la réouverture du pays en 1993, l'enseignement de français a été réorganisé avec l'appui de la coopération française. Le français était la langue vivant étrangère obligatoire dans les écoles secondaires, mais très vite, l'anglais et d'autres langues étrangères comme le chinois ou le japonais se sont imposées avec l'ouverture de l'économie tournée vers le monde anglo-saxon. C'est ainsi qu'en 1999, le gouvernement cambodgien a fait un choix de se tourner vers le multilinguisme en donnant au choix aux élèves entre le français et l'anglais exclusivement comme première langue vivante.
Résultat ?
Et résultat, entre 1999 et 2008, le nombre d'élèves apprenant le français avait fortement baissé.
Bizelle, le français reste toujours, malgré tout, une langue privilégiée hein, chez les Cambodgiens.
Oui, en effet, Philippe, il existe toujours une demande d'apprentissage du français, car la langue française est synonyme de qualité, d'excellence et de bons résultats scolaires. Par ailleurs, la filière d'excellence en français dans l'enseignement supérieur du Cambodge est très attractive et des bourses d'études des pôles universitaires francophones et plusieurs projets de centres de recherche, que ce soit scientifiques et ou sciences sociales, dans les domaines juridiques, technologiques ou domaines médicaux notamment, la langue française est très très nécessaire.
Voilà, tout cela alors que le sommet de la francophonie se tenait cette semaine en Arménie. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio Live with me, today's
headlines. Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Au Brésil, la campagne bat son plein actuellement pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et le premier a été marqué par le très bon résultat du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui a devancé de 17 points le candidat du Parti des Travailleurs de l'ancien président Lula. Raphaël Moran, la rédaction Amérique latine, s'est intéressée aux réactions que cela a suscité dans les pays voisins du Brésil. Et aucun de ces pays ne reste indifférent.
Oui, à commencer par le président du Chili, Sébastien Piñera, qui était ici même à Paris cette semaine dans le cadre d'une tournée européenne. Et lors d'une conférence à Madrid, il a commenté avec enthousiasme la candidature de Bolsonaro. Il a souligné qu'il était d'accord avec son programme économique. Je vous propose d'écouter le président chilien.
Conocemos poco a Bolsonaro. Yo conozco su equipo económico. Las señales que está dando.
Alors, Sébastien Piñera, que dit-il ?
Eh bien, il félicite Bolsonaro pour son programme économique. Ce soutien explicite de Sébastien Piñera n'est pas vraiment surprenant. C'était un président de droite. Ses positions rejoignent les thèses néolibérales du probable futur ministre de l'économie de Bolsonaro, qui est un Chicago boy. Tout cela, bien sûr, ça dépend de l'élection ou pas de Bolsonaro au deuxième tour.
Le président Piñera qui a tout de même souligné l'agressivité des propos de Bolsonaro contre les femmes, contre les homosexuels.
Oui, ces propos inquiètent, d'autant que Bolsonaro est un ancien militaire, ouvertement nostalgique des années de la dictature au Brésil. Du coup, le soutien du président chilien a été très critiqué par l'opposition de gauche. Dire que les droits de l'homme importent peu tant que l'économie est en croissance, c'est un regard typique de la dictature chilienne, rappelle un sénateur socialiste chilien.
Alors d'autres pays d'Amérique latine s'inquiètent d'une possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite au Brésil à l'issue du second tour.
Oui, l'Uruguay par la voix de sa vice-présidente hein, qui observe qu'il y a une vague conservatrice en Amérique du Sud. On peut citer la Colombie, évidemment le Brésil, le Chili, le Pérou. Et pour elle, la victoire éventuelle de Bolsonaro, eh bien c'est l'équivalent d'un retour à la dictature, un risque de retour à la dictature, à ces régimes militaires qu'a connu l'Amérique du Sud. En revanche, d'autres présidents de la région, Venezuela, Bolivie, ont émis leurs craintes, mais vraiment à mots couverts. En général, comme on est entre deux tours, les présidents se sont gardés de déclarations aussi franches que celles de Sébastien Piñera.
Et le deuxième tour, c'est dans deux semaines, hein, je crois, maintenant. Hein.
Voilà.
C'est bien ça. Et toutes les rédactions de RFI suivront avec beaucoup d'attention ce scrutin présidentiel. Raphaël Moran sur Radio France Internationale. Intéressons-nous maintenant à l'un des pays africains qui est très discret. C'est l'archipel de São Tomé et Príncipe. Il y a eu des élections dimanche dernier, on n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant, Miguel Martin, ce scrutin a fait couler beaucoup d'encre chez certains.
Absolument. Ce petit paradis tropical, les îles Chocolat, dont on parle souvent, posées au large du Gabon, sont un vrai paradis écologique. Moins de 200 000 habitants et en effet, peu de convulsions depuis l'indépendance en 1975. Du moins, peu de rébellions ou peu de troubles dans les rues de la capitale jusque-là. Cette semaine, la surprise a donc été de taille dans ce pays d'Afrique équatoriale autour du résultat des élections de dimanche.
Alors, de quel scrutin parle-t-on précisément? Parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, Miguel.
En effet, on votait à la fois pour un scrutin municipal, mais aussi régional, à Principe, la deuxième île de l'archipel, et surtout pour des élections législatives. En raison du régime politique, le choix du nouveau parlement et du gouvernement qui en découle, est donc capitale. Et là, lors de l'annonce des résultats provisoires du scrutin, aucune majorité claire ne s'est dégagée, ce qui a mis le feu aux poudres. Le processus de recomptage des voix a été dénoncé par l'opposition. La voiture d'une juge a été brûlée. La police de choc a dû intervenir. Des images qui ont surpris sous ces latitudes.
Et donc, au bout du compte, on ne sait pas qui a gagné et qui pourra former le prochain gouvernement.
Non, toujours pas. On attend encore les résultats définitifs. Mais le parti au pouvoir, ADI, a perdu la majorité absolue pour gouverner. Il lui faudrait une alliance, a priori, avec deux députés indépendants du Sud. Le parti pourrait avoir 27 sièges sur 55 parlements. De l'autre côté, l'ancien parti unique, le MLSTP, en s'associant à une coalition, pourrait atteindre les 28 députés. Les marges sont très serrées. Je vous propose d'écouter le Premier ministre sortant à ce propos.
Eu, como primeiro-ministro e chefe do governo, eu tenho a responsabilidade legal no quadro da lei.
Que dit le Premier ministre de São Tomé?
Voilà, après les troubles en début de semaine, le Premier ministre sortant nous disait qu'il empêcherait une manifestation prévue ce jour de la part des membres de son propre parti, ayant la responsabilité de coordonner la défense et la sécurité de l'État. Patrice Trovoada estime que cette tâche est au-dessus de celle qui découle de la présidence du parti. Il est important de préserver un climat de paix et d'ordre en attendant les résultats définitifs qui, eux, devraient être acceptés par tous les partis concernés.
Par ailleurs, le principal parti d'opposition lui réclame la victoire. Est-ce que cet apaisement prêché dernièrement par le Premier ministre les a convaincus?
C'est en apparence ce que le président du principal parti d'opposition, le MLSTP, semble dire. Je vous propose de l'écouter.
Pela primeira vez, teriam tomado uma decisão com alguma lucidez, porque não tem qualquer lógica.
Jorge Bon Jesus nous disait que cette décision faisait preuve d'un peu de lucidité. Finalement, le parti au pouvoir s'est défait de la très grande scène installée dans la capitale, prétexte pour toutes sortes de festivités. Mais que pourrait-il venir encore fêter dans la rue? D'après ce responsable politique, le parti au pouvoir chercherait à s'opposer au verdict des urnes. Il dit cependant que si jamais entre quatre murs, on veut leur confisquer la victoire, ces militants redescendront dans la rue pour, je cite, défendre la démocratie.
Miguel Martins de la rédaction lusophone de RFI. L'Union européenne a annoncé l'autre jour qu'elle lançait la procédure pour suspendre l'accord commercial, tout sauf les armes, avec le Cambodge. Pizemam, de la rédaction cambodgienne, quelles sont les raisons de cette décision?
Oui, Philippe, Cecilia Malmström, la commissaire du commerce de l'Union européenne, a informé vendredi 5 octobre les autorités cambodgiennes de la décision prise par Bruxelles de suspendre l'accord préférentiel avec le Cambodge. Cet accord permettait au Cambodge d'importer tous ses produits, sauf les armes bien sûr, vers l'Union européenne sans payer le droit de douane. La commissaire européenne expliquait que cette décision était motivé par la détérioration de la situation en matière de respect des droits de l'homme, notamment en matière de liberté d'expression, droits des travailleurs et liberté d'association. Elle a souligné que l'application de l'accord est soumise au respect des 15 conventions des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail.
Une mission donc a été envoyée au Cambodge fin juillet pour vérifier si le Cambodge honorait ses engagements. Et qu'en dit Madame Malmström? Elle se donne 6 mois.
Elle se donne 6 mois pour étudier la possibilité de cette procédure. Et donc, d'ici là, s'il n'y a pas d'amélioration claire de la part du Cambodge, l'accord pourrait bien être suspendu.
On n'en est pas là, donc on ne sait toujours pas. En tout cas, la décision de l'Union européenne irrite fortement Hun Sen, qui est le chef du gouvernement cambodgien.
Bien évidemment, le premier ministre Hun Sen est très remonté envers cette décision qu'il juge impartiale et injuste. Depuis le Japon, lors de son visite officielle le 7 octobre, M. Hun Sen a répondu à Bruxelles. On va l'écouter.
Le son est très mauvais, on continue pour le résumer ce qu'il dit.
Il disait que jamais le Cambodge échange la souveraineté nationale contre de l'aide. Il ne faut pas échanger la paix du pays contre de l'aide, quelles que soient les mesures que les Européens veulent prendre contre le Cambodge, le pays doit rester fort dans la défense de sa souveraineté.
Alors si cette suspension rentre en vigueur, quelles seront les conséquences sur l'économie cambodgienne? On peut déjà les prévoir?
Oui, il y a beaucoup de conséquences, Philippe. Selon les chiffres de la Commission européenne, les exportations du Cambodge vers le marché unique européen représentaient 5 milliards d'euros en 2017. La suspension de l'accord préférentiel pourrait donc avoir des lourdes conséquences pour l'industrie de textile cambodgienne. Ce secteur emploie plus de 800 000 ouvriers. Les États-Unis et l'Union européenne sont les deux plus grands marchés pour ce secteur. Donc, environ 40% du produit intérieur brut du Cambodge provient des exportations de vêtements. Par ailleurs, dans une interview donnée au magazine, Monsieur Atnodak, président de Chambre de commerce européenne, disait
il a pris donc position
contre cette suspension.
Merci Pizemam de la rédaction cambodgienne. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.